Chapitre 6. Rentrer dans le désert. Un mirage. Du Caire à Suez. Une route dans les sables. L'oasis. Une estafette du vice-roi d'Égypte. Le lion et les gazelles. Suez. Destinée de ce pays. La source de Moïse. Jeddah. Le tombeau d'Ève. Une note au crayon. Les mystères de la Mecque. Un mendiant, voyage à la ville sainte, la Kaaba, le puits de Zemzem, Horace Verpré, départ, contretemps. Une fois le signal donné, on marchait, on s'avançait, on voyait la terre d'Égypte disparaître, et cependant, on ne cessait pas de voguer, pour ainsi dire, au milieu d'un océan de sable. Le lendemain, un spectacle plein d'enchantement frappait les yeux des trois Européens. « Voilà une belle nappe d'eau, » dit Jacques. « Voilà tout près de magnifiques palmiers, » répartit Robert. « Voilà des fleurs et du gazon, » s'écriait Claude Marteau. Les Orientaux souriaient. En effet, on avait beau marcher, l'oasis n'était jamais qu'à la même distance. Elle paraissait faire du chemin avec les voyageurs et les fuir toujours. Bref, c'était un mirage, scène qui charme, mais qui trompe les yeux. Pour se moquer du mirage, le marabout ordonna qu'on se mît à genoux et qu'on récita ce verset du Coran. « Ne poursuivez jamais de propos grossiers, ni le chameau, ni le vent. Le premier est un bonheur pour les hommes. » Et le second est une émanation de l'âme de Dieu. Une fois la prière finie, toute la caravane prit une figure sereine. Chacun disait à son voisin « Ce n'est encore que le désert pour rire. Notre passage par ici va ressembler à un voyage d'agrément. » Un des écrivains de ce temps qui ont le plus aidé à faire connaître l'Orient, M. Charles Didier, a dit « Le Caire est séparé de Suez par un désert de 100 000, redouté jadis, tant à cause de son manque absolu d'eau que parce que les caravanes y étaient détroussées par les Bédouins, ce désert est maintenant fort civilisé. Je dirais même qu'il l'est trop pour mériter le nom de désert. Il est juste de rappeler que la main de fer de Mehemet Ali l'a entièrement purgé des pillards qui l'infestaient, et il est devenu aussi sûr, plus sûr peut-être qu'une rue de Paris. Ensuite, l'administration du transit, chargée du transport à travers l'Égypte de la malle et des voyageurs de l'Inde, y a établi une route macadamisée, une diligence, des stations de poste au nombre de 15, toutes pourvues de l'eau du Nil qu'on y vend cher, mais cependant pas au prix d'un diamant le vert, comme beaucoup d'Européens sont disposés à le croire. Une carafe coûte à peu près 75 centimes, ce qui est le prix du petit vin de Bordeaux, deuxième qualité. Mais les voyageurs et les caravanes rencontrent à chacune de ces stations de véritables hôtelleries où l'on mange à la carte. La transformation de ce désert en second tome du pays européen sera complète le jour où le chemin de fer sera achevé et l'isthme de Suez définitivement percé. En avançant, la caravane se cognait bientôt à la chaîne pierreuse du Mokattam, dont le désert côtoie le pied dans toute sa longueur et qui court à sa droite du Nil à la mer Rouge. Vue à la nuit tombante, cette chaîne est noire. Un beau soleil couchant rayonnait à son sommet. Le sable de la route était rose. On s'arrêta à une sorte d'oasis plantée de quelques palmiers. Les tentes furent bientôt dressées et le dîner préparé. Il faut voir la gravité que mettent les Arabes dans l'exercice des fonctions domestiques. Rien de plus curieux. Dans la plupart des cas, on s'arrange pour ne pas allumer de feu. Le laitage, les fruits, le pain, l'eau fraîche suffisent pour des musulmans qui vont accomplir le saint pèlerinage. Quelle frugalité chez ces hommes, disait Jacques. Le repas des animaux ne fut point oublié. Les chameaux accroupis autour du camp et les chevaux debout sur leurs jarrets d'acier reçurent tous à la fois une ration de fèves ou de doura et quelques gouttes d'eau. Cavaliers et chameliers se couchèrent ensuite pêle-mêle avec leurs bêtes, sans autre abri que le ciel étoilé. Cette première nuit sous la tente se passa pour nos trois voyageurs sans événement. Robert Kergorieux dormit et rêva. Le lendemain, à son réveil, il disait à ses deux amis « C'est sans doute ce que nous a rapporté le Syrien qui a mis ma pensée en mouvement, mais j'ai vu Horace Verpré pendant toute la nuit. » Le lendemain, et pendant plusieurs autres journées, il n'y eut non plus rien à noter. On marchait, on priait, ou faisait halte, on déjeunait rapidement, on dressait la tente, on dormait, et c'était toujours la même chose. De temps en temps, un léger bruit de roues sur le sable se faisait entendre. On voyait alors apparaître la voiture du transit, boîte oblongue, peinte en blanc, pour repousser les rayons du soleil, et conduite par un postillon en turban. Parfois, au milieu de la nuit, un bruit étrange, pareil au grondement du tonnerre, venait troubler le sommeil des pèlerins. À ce rugissement terrible succédait quelquefois un sifflement strident et métallique. « Qu'est-ce que ce bruit-là ? » demandaient les trois Françaises à leurs voisins. « Cela dépend, » répondait quelque arabe d'un air indifférent. « Ou c'est le lion qui descend du mokattam nu et pelé pour chercher à égorger une pauvre gazelle qui bondit sur le bord de la montagne ?» Ou c'est le seigneur à la grosse tête qui cherche à déchirer quelque grand serpent avec ses griffes impitoyables. Et le lendemain, la caravane passait. À la huitième journée, on entendit le marabout s'écrier « Voilà Suez !» L'heureuse situation de Suez au fond de la mer Rouge en dut faire de bonne heure un entrepôt commercial important. Depuis que la malle des Indes a adopté cette route, ce port a doublé de valeur. Que sera-ce le jour où l'isthme sera définitivement perforé et où les deux mers se confondront sur ces sables? Un jour prochain, sans doute, l'Asie et l'Afrique trouveront sur cette plage un trait d'union et ce grand fait, l'un des événements les plus considérables du XIXe siècle, aura été l'œuvre d'un enfant de l'Europe, d'un Français. Jusqu'à cette heure, Suez ne sera toujours qu'un entrepôt, un port, habité tout au plus par 5000 Arabes, dont une vingtaine de chrétiens environ. La caravane, qui n'avait aucun intérêt à s'arrêter à Suez, continua son chemin par le grand désert biblique, dit de l'égarement, parce que les Hébreux, fuyant l'Égypte, y errèrent 40 années, et où la raison les abandonna pour leur faire rendre un culte au veau d'or. Il est d'usage que les caravanes s'arrêtent la nuit à Djeddah. D'abord, parce que la rosée du soir qui tombe du ciel ne permettrait pas qu'on continuât son chemin. Ensuite, parce qu'on dit à ceux qui suivent le cortège sacré, « Prenez garde, un Européen peut séjourner à Djeddah, mais pas plus loin. » Tout infidèle qui serait reconnu posant son pied profane sur la terre de la Mecque ou sur celle de Médine serait puni de mort. Que faire donc à Djeddah quand on n'est pas un vrai croyant, c'est-à-dire quand on ne peut point aller à la Mecque ni à Médine? Demanda Robert au Syrien. Visiter les environs en attendant le départ de la caravane. Cette réponse ne pouvait satisfaire que médiocrement Robert Kergorieux. Le filleul du vaillant corsaire avait entendu parler de merveilles, ou pour le moins de monuments curieux, qu'il eût été bien aise de voir. Dans les villes saintes, où le prophète est né, où il a fait sa résidence, où il a lutté, où il a été renié, où il a été victorieux, où il a été enterré, il existe toute une série de légendes poétiques qui sont bien faites pour séduire l'imagination. « Que je voudrais contempler la Sainte Kaaba !» s'écriait Robert. « Mais qu'est-ce que la Sainte Kaaba ?» demandait Claude. « Une maison plus vieille que le monde, puisqu'elle l'a précédée. »« Robert, quel conte nous faites-vous là ? » Ce n'est pas un conte, mais une tradition sacrée. Écoutez bien, la sainte Kaaba a été bâtie au ciel par la truelle des anges. À la naissance d'Adam, Dieu l'a fait descendre sur la terre. Plus tard, Abraham en a fait tour à tour son habitation et son temple. Mahomet l'a proclamée sainte entre toutes, et on la récrépit sans cesse.
Il y a aussi le puits de Zemzem, dit le Syrien.
Est-ce encore une légende sacrée ? Demanda Claude.
Sans doute, quand Ismaël, père du peuple arabe, fils d'Abraham et d'Agar, épuisé de fatigue et de soif dans ses déserts, allait tomber et mourir, un ange du Seigneur lui apparut, et de son doigt fit jaillir une source à l'endroit même où se trouve le puits. Tous les pèlerins l'ont en grande vénération.
En parlant ainsi, les trois Européens se détachèrent de la caravane et une espèce de guide les conduisit aux portes de la ville pour leur montrer ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant. À une portée de fusil de la dernière caserne de Djeddah se trouve un cimetière clos de murs et soigneusement fermé par une porte.
« Savez-vous qui dort dans ce champ du repos ?» dit le guide.
« Non, » répondit Jacques. « Qui est-ce ? »
« Ève, la mère du genre humain. »
Nos voyageurs purent remarquer que les filles d'Ève ont bien dégénéré de leur aïeul sous le rapport de la taille. Le tombeau de la femme d'Adam n'a pas moins de 60 mètres. Une petite mosquée couverte d'une coupole blanche s'élève sur l'ombilic. Toutes les autres sépultures pâlissent naturellement auprès de celle-là. Pourquoi ne pas le dire ? La mort ne revêt pas chez les mahométans le caractère sombre que nous lui imprimons, contrairement à notre dogme fondamental, qui fait de la mort une délivrance et la porte de la gloire éternelle. À certains jours de la semaine, généralement le vendredi, qui est le dimanche des musulmans, les parents et amis des trépassés se rendent dans les cimetières, non pour y gémir ou pour y prier, mais pour y converser avec les absents, comme s'ils étaient présents, et pour prendre sur leur tombeau des collations fort peu lugubres. Robert Kergorieux acheta au prix d'un para, c'est-à-dire à peu près un sou de notre monnaie, une gerbe de fleurs à des Nubiens, et s'en alla la poser sur la pierre tumulaire de la mère du genre humain. Ses deux amis l'avaient suivi et paraissaient examiner le monument avec la plus profonde attention. Tout à coup, Claude Marteau s'écria « Qu'y a-t-il donc là sur cette pierre ? Ne sont-ce pas des lettres écrites au charbon ?»«
Eh !» répondit Jacques, « les Nubiens, les mendiants et les musiciens ambulants auront fait du feu dans ce cimetière, et les enfants se seront amusés à charbonner un peu cette pierre tombale. Voilà toute l'histoire. »
« Mais, » reprit Claude Marteau, « ce crayonnage grossier ressemble à des caractères de l'écriture française. » Ces paroles firent dresser l'oreille à Robert Kergorieux. « Des caractères de l'écriture française ? Que dis-tu donc là, Claude ?» Il se pencha sur la pierre et regarda à son tour. Une vive exclamation sortit en même temps de sa poitrine. Est-ce un rêve ou l'effet d'un mirage de nouvelle espèce, mes amis ? Regardez donc avec moi, c'est bien en effet du français. » Et, après avoir redoublé d'attention, il reprit, en lisant à haute voix, « Horace Verpré a passé par ici. » Qu'on juge de l'étonnement et de la joie des trois Européens, Robert Kergorieux surtout sentait son cœur battre avec violence. Il ne pouvait se décider à quitter des yeux les mots qu'avait écrits la main de son frère d'adoption. « Horace est venu à Djeddah ! Horace a passé par ici » s'écriait-il. Mais au même instant, un accès de souveraine tristesse s'emparait de sa pensée. « Mon cher Horace est venu à l'endroit même où nous sommes, » reprit-il. « Mais il a nécessairement dû s'éloigner. Où est-il à cette heure ? Combien y a-t-il de temps qu'il a écrit ces mots et quelle direction a-t-il prise en quittant cette première des villes saintes ?» C'était autant de questions auxquelles il était impossible de répondre. « Regagnons Djeddah, » dit Jacques. aidés du consul français, nous interrogerons toute la ville, et peut-être serons-nous assez heureux pour rencontrer notre ami. » Il s'en revenait effectivement tout pensif quand, à 100 pas du port, il vit revenir à eux un homme qui leur tendait une main suppliante. « Étranger, au nom d'Allah et de son prophète, donnez-moi un para !»«
Voilà qui est étrange !» dit Claude Marteau. « Il me semble que j'ai déjà entendu cette voix et cette prière-là quelque part !»
De son côté, Jacques se frotta le front comme pour y réveiller sa mémoire endormie.
« Au nom du prophète, donnez-moi un para !» reprit l'homme d'une voix nasillarde.
Jacques se mit à interpeller le mendiant. « N'est-ce pas déjà toi, lui dit-il, qui nous a abordés sur la jetée du port de Tunis ?»«
C'est moi-même, Seigneur !»
Le mendiant s'inclina légèrement et reprit.
« Puisque vous me remettez étranger, vous devez vous rappeler qu'en vous demandant l'aumône, je vous donnais à demi-voix et par allusion le conseil de ne pas vous fier aux pêcheurs de corail. »«
Il est vrai, » répondit Robert.
« Votre jeune ami m'a donné alors, » reprit le mendiant, « et, par le fait de la volonté d'Allah, dont le nom soit béni, c'est lui qui a été victime des ruses du pirate. » Mais Allah veille toujours sur les bons cœurs. Votre ami n'a pas dû rester longtemps entre les mains de l'écumeur des mers.
Comment es-tu si bien instruit de ce qui lui est arrivé ? Demanda Robert Kergorieux.
Parce que telle a été la volonté d'Allah. Moi-même, j'ai eu à venir dans ce pays. Je me suis mise à la suite d'une caravane qui venait presque immédiatement après la vôtre. C'est moi qui, au Caire, vous ai demandé à un négociant syrien.
Quoi ?
C'est toi qui as chargé notre voisin de nous apprendre que notre race n'était pas loin de nous ?
Oui, c'est toujours moi.
Mais où est-il maintenant ?
À la Mecque, avec une troupe de 2000 vrais croyants qui y sont allés hier soir.
À la Mecque ? Mais il n'y a que les musulmans qui aient le droit d'y aller. Est-ce qu'il s'est fait mahométan ?
Non, mais il passe pour l'être.
Ici, les trois amis ne purent retenir un certain frisson d'épouvante.
Juste ciel, s'il était découvert, il courrait danger de mort.
J'en conviens, Seigneur.
Comment donc faire pour le tirer le plus tôt possible d'un si grand péril ?
Ici, le mendiant, craignant sans doute d'être entendu, baissa la voix.
Le tirer de là vous est facile, si vous le voulez bien.
Par quel moyen donc ?
En vous servant de la bague que vous portez au doigt.
Ces paroles ouvraient aux trois amis une perspective qu'ils n'avaient pas d'abord entrevue. Ils savaient bien que la bague de Cadour, anneau d'une longue chaîne d'amis et de protecteurs, pouvait leur être d'un grand secours tout le long de l'Orient. Ils comptaient même qu'elle pourrait faciliter leur passage d'un pays à un autre, les faire bien venir auprès de telle ou telle puissance de l'islamisme. Mais ils n'auraient jamais osé supposer qu'elle fût douée d'une vertu assez prodigieuse pour que, grâce à elle, on pût opérer la délivrance d'un giaour engagé au milieu des mystères des villes saintes.
Robert Kergorieux interrogea encore son interlocuteur.
« Eh bien, que faudrait-il faire ?
Me suivre.
Mais où ?
À la Mecque.
À la Mecque ! S'écria Jacques.
Ce serait se jeter lui aussi dans la gueule du loup.
Il n'a rien à redouter avec la topaze. »
Horace Verpré, confondu parmi les musulmans, reprit Robert, a pu passer sans être inquiété, parce qu'on ne l'a pas vu ni reconnu. Il n'en serait pas de même de moi qui ai causé avec un grand nombre de pèlerins.
La bague vous a franchi de toutes les craintes.
Jacques reprit la parole. Combien vous faudra-t-il de temps pour ramener Horace Verpré où nous sommes ?
2 jours.
« Mais Claude Marteau et moi, que deviendrons-nous pendant ces 2 jours ?»«
Mon cher Jacques, » dit Robert Kergorieux, « ce n'est pas ce qui doit t'inquiéter. Il paraît qu'il existe ici des hôtelleries organisées à l'européenne. Rendez-vous dans une de ces maisons-là, tiens, tout près du port. Nous viendrons vous y rejoindre dans 2 jours. »
Jacques paraissait hésiter.
« Je comprends votre inquiétude, » lui dit le mendiant. « La scène de Tunis ne doit pas être sortie de votre mémoire, mais il y a musulmans et musulmans. Celui qui vous parle mourrait plutôt que de vous trahir. Laissez ce jeune seigneur venir avec moi à la Mecque, et vous verrez que vous n'aurez qu'à vous applaudir de cette preuve de confiance donnée à un inconnu.
« Va donc, Robert, » répondit l'ancien matelot tout ému. Accompagné de Claude, qui ne paraissait pas trop rassuré sur les suites de cet arrangement, Jacques se présenta dans l'hôtellerie qui lui avait été désignée. Pendant ce temps-là, Robert Kergorieux et le mendiant, procédant chez un barbier baigneur à des détails de toilette usités en pareil cas, se couvraient l'un et l'autre d'un long burnous et se faufilaient dans une des caravanes en route pour la ville du prophète.
« Faites tout ce que vous me verrez faire !» disait au jeune breton son conducteur inconnu.
Bientôt, un marabout annonça qu'on entrait dans la ville.
La Mecque est une réunion des croyants de tous les pays. Le Turc d'Erzeroum y coudoie l'Africain, l'Arabe barbaresque. Toutes les races orientales s'y trouvent rassemblées et confondues. Le jour se levait. Il n'y a pas de crayon, pas de plume ni de pinceau, il n'y a pas non plus de langue assez souple pour exprimer ce qui se voyait. La divine Kaaba est entourée d'un immense parvis à colonnades, à arceaux et à galeries. Tout cet espace était couvert de pèlerins à tête nue. On y voyait des costumes et des enfants de toutes les parties de l'Orient, et même des noirs de la négritie. À un certain moment, toutes les têtes inclinées vers la terre frappaient les pavés de leur front en prononçant le nom d'Allah.
« Faites tout ce que vous me verrez faire !» répétait le mendiant en s'adressant à Robert. Ils allèrent de la maison d'Adam au puits de Zemzem, de là à la pierre noire, et toujours en gardant la posture de l'extase et en s'inclinant. Les oiseaux de proie sont nombreux dans cette partie de l'Arabie. Au moment où il s'approchait du puits de Zemzem, Robert Kergorieux montra du doigt à son guide un grand aigle à tête blanche qui enlevait un signe.
« C'est d'un très bon présage !» répondit le mendiant.
« Ne verrons-nous pas bientôt Horace Verpré ?
Il faut savoir être aussi patient que résolu, mon jeune seigneur !»
Ces cérémonies de la Mecque, cachées avec un soin si jaloux aux yeux des chrétiens, n'ont plus rien de mystérieux depuis des siècles. On sait qu'elle consiste, en général, en prières faites à genoux sur les dalles d'une mosquée, en actes de contrition accomplis avec le front frappant la pierre, en ablutions, en jeûnes, en chapelets égrenés et en stations extatiques faites devant le tombeau de Mahomet. Pour tenir sa promesse et pour garantir sa propre existence, Robert Kergorieux dut avoir l'air de se livrer à la plupart de ses exercices. Au fond, tout cela n'entraînait de sa part aucune complaisance coupable envers un culte qui n'était pas le sien, ni aucune idée d'apostasie. Il s'agissait au contraire de veiller au salut d'un chrétien, de son frère d'adoption. « Où donc reverrai-je Horace ?» se demandait-il à chaque instant. Par bonheur, le mendiant, qui ne le perdait pas de vue un instant, posait son doigt sur ses lèvres comme pour lui recommander de se taire.
« Continuez à agir en bon pèlerin !» lui disait-il quand il lui était permis de parler.
Après les ablutions faites à une piscine, Robert Kergorieux allait à genoux du puits de Zemzem à la Kaaba, quand un cri étouffé se fit entendre à 20 pas de lui. Il jeta les yeux autour de lui et n'aperçut d'abord que des visages de musulmans qu'il ne connaissait pas. Le cri plaintif résonna une seconde fois. Tout près des galeries, appuyé contre le fût d'une colonne, Robert aperçut alors un jeune homme en turban de cachemire, enveloppé d'un long burnous blanc. Il n'eut pas besoin de regarder de nouveau pour être fixé sur le personnage.
« Silence !» reprit le mendiant. « Pas un mot, pas un cri, pas un geste !»
Horace Verpré, car c'était lui, l'avait reconnu le premier. Mais, comprenant d'instinct toute la gravité de la situation, il s'était remis à l'attitude contemplative d'un croyant. À la joie qu'il éprouvait de le revoir se mêlait néanmoins un sentiment amer, un vif accès d'inquiétude. Pourquoi Robert était-il seul, accompagné uniquement d'un pauvre sectateur du prophète ? Qu'étaient devenus Jacques et Claude ? Comment avait-il pénétré à la Mecque ? Comment s'y prendrait-il pour en sortir ? Ces diverses questions avaient traversé la pensée du jeune homme avec la rapidité de l'éclair. Le soir,
Au moment où les pèlerins, leur dévotion finie, se retiraient dans leur résidence, Robert remarqua qu'il était suivi. C'était un bédouin qui cherchait à lui remettre un papier. Sur ce billet au crayon, il ne trouva que ces seuls mots. « Viens sans retard à la porte de l'Ouadi Fatma ». Le mendiant s'offrit de l'accompagner. Au rendez-vous indiqué, ils trouvèrent Horace Verpré avec deux chevaux tout sellés. « J'ai fait un prodige en m'échappant, » dit ce dernier à son ami. « Tu sauras tout plus tard. En attendant, nous n'avons pas une minute à perdre. Il faut fuir. »« C'est cela. Partons. Allons à Djeddah rejoindre Jacques et Claude Marteau. »«
Soyez prudents, seigneur, » se hasarda à dire le mendiant. « Tout danger n'est pas évanoui. »
Robert Kergorieux lui jeta une bourse de 3 sequins d'or pour le remercier. « Nous aurons autant de prudence que de courage, » lui dit-il. « Adieu !»«
Adieu, Seigneur, et que l'ange des hasards veille sur vous !»
Il s'agissait de franchir la porte. C'était là le point délicat. On entre difficilement à la Mecque, mais on n'en sort pas à moins de prouver qu'on est un vrai croyant. Au moment où les deux cavaliers allaient franchir la barrière, un gardien, placé à la tête d'une vingtaine d'arnautes armés, s'écria
« Qui êtes-vous? Où allez-vous? Nous sommes des fils du prophète. Nous retournons à Djeddah. Montrez-nous le laissez-passer du grand shérif, prince de la Mecque.
Nous n'avons pas de laissez-passer.
Eh bien, vous ne sortirez pas.
Le temps presse. Il est indispensable que nous partions.
Si vous faites un pas de plus, je vous fais abattre à tous deux la tête à coups de cimeterre. »
Une idée vint à Robert Kergorieux. Il montra la bague de Kadour aux musulmans.
« Connaissez-vous cet anneau ?» dit-il.
« Ah, c'est différent !» répondit le gardien. « Cette topaze vaut un passeport. Passez !»
Ils partirent au galop en criant « Victoire !» Mais ici-bas, il n'y a que heurts et malheurs. Ils arrivaient à Djeddah ventre à terre, afin d'y rejoindre leurs deux amis, lorsqu'en entrant dans l'hôtellerie, ils virent arriver une manière de palefrenier qui leur dit
« Seigneur, les deux Européens que vous demandez sont partis avec un arabe il y a quelques jours.